Nous avons vu la dernière fois comment l'adoration nous libérait de nous-mêmes, de la recherche de nous-mêmes dans la relation à Dieu. L'adoration nous permet d'aimer l'autre pour lui-même et non pas pour nous-mêmes. Et nous voudrions voir maintenant comment avancer sur ce chemin de l'adoration dans la vie concrète, et même plus particulièrement sur le terrain de la vie commune, en couple, de telle manière qu'il n'y ait pas deux vies, une vie où on prend son temps d'adoration, comme on dit souvent, et puis une vie où on vit les choses humainement, mais que progressivement l'adoration pénètre effectivement l'amour humain. Ce qui ne peut pas se faire facilement. Je crois que pour beaucoup, pendant longtemps, il y a de fait deux vies parallèles. Une vie religieuse et la vie, je dirais pas la vraie vie, mais enfin, la vie réelle, disons, quotidienne, qui ne se laisse pas vraiment pénétrer par Dieu. En fait, l'adoration, c'est pas un temps particulier dans une journée. L'adoration, c'est tout un état d'esprit, comme nous allons essayer de le montrer, qui fait que, progressivement, nous sortons de cet esprit de possession et de domination, et qu'on trouve le chemin d'une nouvelle manière de vivre l'amour humain. J'aime beaucoup une expression du cardinal Ratzinger, au commencement est l'adoration. En fait, c'est le fondement de la vie humaine, tout simplement parce que Dieu nous a créés pour lui dès le commencement. Et c'est en remettant Dieu à sa place que nous trouvons aussi le véritable ordre dans notre vie, que notre vie se réordonne. Se réajuste. Chaque chose trouve sa vraie mesure. Alors je dis, l'adoration en esprit et en vérité, elle ne peut être que le fruit d'un long chemin, une adoration qui pénètre réellement notre humanité. Pour une raison première, c'est qu'il y a en nous une résistance profonde à cette remise totale de notre vie à Dieu. Tout simplement en raison de la pression du péché originel qui fait que Dieu est perçu, consciemment ou inconsciemment, comme un danger. Un danger pour notre humanité, comme disait Jean-Paul II, il posait la question, si Dieu est tout en tous, que reste-t-il pour moi en tant qu'homme? Faites l'essai, dites-vous, au ciel, Dieu sera tout en tous, et regardez quel effet ça provoque. Ou dites-vous qu'au ciel, nous serons tout entiers tournés vers Dieu et que nous vivrons de Dieu, est-ce que ça semble quelque chose de vivable ou ça semble quelque chose d'aliénant, comme une perte de notre humanité? Donc je dis, il y a la pression de ce doute sur la bonté de Dieu qui est permanente. Le péché originel, ce n'est pas un péché simplement au commencement de l'histoire de l'humanité, mais c'est un péché qui est à l'origine de tous les autres péchés. J'espère que vous l'avez bien compris. Et on peut très bien être convaincu que Dieu est Dieu, et que de fait, il mérite d'être adoré, et lui seul, le Seigneur est notre Dieu, l'unique, et que notre cœur n'arrive pas à suivre. Il y a des résistances profondes, et la vie n'arrive pas à suivre. En fait, c'est l'adoration dans la tête. C'est l'adoration par conviction. Alors on prend son temps, c'est plus ou moins difficilement, mais en réalité, tant que le cœur n'est pas touché en profondeur, tant qu'on n'a pas une adoration filiale et aimante, c'est vrai que ça ne mord pas sur la vie d'amour du couple. Et c'est facile de dire que la religion chrétienne ne change pas vraiment la vie. Pendant ce parcours, nous essayons de montrer qu'il y a un chemin réel, concret, de rédemption de l'amour humain. Mais évidemment, ce n'est pas en l'espace de 2 ans simplement qu'on peut vivre cette transformation en profondeur. Mais cet enseignement vous est donné pour ouvrir des perspectives et surtout redonner une espérance et communiquer une certaine sagesse, un certain regard sur l'amour, sur Dieu, sur le Christ, qui fait que de fait on avance. Et comme j'aime bien le dire et le répéter, mieux vaut avancer à petits pas sur le bon chemin que de courir sur le mauvais. Donc vous découragez pas si vous avez l'impression d'avancer lentement dans ce parcours. Pensez que les choses se font vraiment par dose homéopathique. À cause de ces résistances de fond, il peut arriver qu'on ait des grâces ponctuelles d'adoration et d'amour pour Dieu à Parelmonial, par exemple, ou dans d'autres lieux privilégiés où la tendresse divine se fait davantage proche au cœur de l'homme. Mais, comme disait le père Thomas Philippe, père spirituel de Jean Vanier, le moi possessif et dominateur, il peut simplement être comme endormi, mais il va bientôt se réveiller. On peut avoir l'impression qu'on a vraiment atteint l'amour pur, l'amour véritable, mais en réalité, il y a une couche de grâce sensible, forte, qui cache un fond humain qui n'est pas encore vraiment purifié. Il ne faut pas s'étonner que 2 ans après une expérience forte spirituelle, il y a des problèmes qui reviennent et qui nous obligent à travailler plus en profondeur. Nous voudrions voir comment peut se vivre ce travail plus en profondeur, donc d'une adoration qui pénètre dans la vie humaine. Mais pour ça, en dressant un peu le décor, et le décor, c'est que nous ne sommes pas simplement blessés par le péché originel, au sens d'un esprit d'orgueil et d'autosuffisance, d'égocentrisme, mais nous sommes aussi blessés par la vie, par nos parents, par nous-mêmes, qui fait que à la blessure première se surajoutent bien d'autres blessures qui conditionnent notre vie psychique, c'est-à-dire aussi notre affectivité et notre manière d'aimer. J'ai demandé à Josiane de m'aider à vous parler de ces blessures. Moi, je vous en parlerai à partir de l'expérience que j'ai faite d'un chemin progressif de prise de conscience de ces blessures et de guérison. Et pour ce qui est de la guérison des blessures, à proprement parler, on y consacrera la journée du samedi. Voir comment le Christ nous conduit sur un chemin de guérison en profondeur, à la fois du cœur et de l'affectivité. Mais ici, je voudrais d'abord dresser le cadre, c'est-à-dire vous aider à prendre conscience des scénarios, comme on dit en psychologie, dans lesquels on peut se trouver enfermé. Distinguons déjà la blessure, c'est-à-dire l'expérience d'un manque, essentiellement d'un manque d'amour. La blessure la plus profonde, c'est la blessure d'abandon. Et la manière dont nous avons réagi à cette blessure, comme aime dire Simone Paco, qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on t'a fait ? C'est frappant de voir que dans une même famille, ayant eu les mêmes parents, des fois des jumeaux, on voit des psychologies vraiment différentes. Donc il y a la blessure, puis la réaction à la blessure, et à ce niveau-là, on parle d'infection de la blessure, c'est-à-dire à une souffrance, à une béance, à un vide mal vécu, va correspondre une réaction qui, en réalité, une réaction première qui n'est jamais juste. Pourquoi la réaction à la blessure, une blessure de petit enfant, n'est pas juste? À cause du péché originel. À cause du péché originel, nous n'avons pas la force de supporter la maladresse de nos parents, les situations blessantes. Et donc, nous réagissons tous mal au mal. L'Église n'a jamais voulu condamner Freud. Elle a tout de suite compris que dans les intuitions de Freud, il y avait quelque chose qui rejoignait la doctrine de l'Église sur le péché originel. La nature humaine est blessée, dès le départ. C'est important de comprendre que avec la blessure, donc il y a une réaction à la blessure, et que dans notre vie quotidienne, tout ce qui réveille la blessure va réveiller la réaction à la blessure. Prenons l'exemple d'un enfant qui aurait été blessé par un père et une mère autoritaire. S'il épouse quelqu'un d'autoritaire, à une expression, à une parole un peu trop autoritaire, va correspondre à un réveil d'une souffrance qui n'est pas liée seulement à cette expérience ponctuelle, mais qui va provoquer une réaction qui sera celle du petit enfant. C'est-à-dire souvent une réaction de colère. Josiane, vous vouliez dire quelque chose sur la répétition?
Je crois effectivement qu'on peut difficilement ne pas apporter dans nos relations de couple et nos relations en général les blessures que nous avons vécues dans notre enfance ou dans les relations que nous avons pu avoir avec nos parents, avec nos proches. C'est important de le savoir, même si dans un couple, on va rejouer certaines souffrances de manière tout à fait inconsciente. C'est-à-dire que même si je sais que j'ai souffert d'abandon étant enfant, ben, malgré moi, il y a des choses qui vont se mettre en place dans la relation, qui vont venir me toucher à nouveau à ce niveau-là, et je vais revivre un vécu d'abandon de manière quelquefois assez intense. Et c'est en fait grâce à cette répétition que je vais pouvoir aussi mettre au jour cette souffrance, parce que quelquefois nos blessures, surtout quand elles viennent de l'enfance, sont restées très inconscientes. Et donc il s'agit presque d'accepter d'en faire l'expérience à nouveau. Hein. On va traverser avec son compagnon quelque chose qui va nous amener, ben, peut-être dans un premier temps à nous fermer, mais aussi certainement à nous ouvrir. Donc il faut faire confiance, j'ai envie de dire, aux répétitions, parce qu'elles sont là pour nous enseigner quelque chose, et c'est toujours facteur de croissance, en fait.
C'est facteur de croissance si on se laisse guider, éclairer, et qu'on suit un chemin de lumière. Nous verrons comment, donc samedi, mais il y a une difficulté de fond. C'est que dans ces réactions, dont au départ on n'est pas conscient, dans la vie de couple, ce qui est difficile, c'est de se heurter à des réactions qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas les nôtres, on n'en est pas conscient, mais on comprend encore moins celles de l'autre, dont on n'est plus conscient. Et cette différence, parce que chacun a évidemment une problématique qui lui est propre, et ici j'aime reprendre l'expression de Benoît XVI, rappelez-vous, des îlots de pensée et de sentiments. On a vraiment l'impression, quelquefois, qu'il y a certains couples qui sont enfermés dans leur problématique et qui n'arrivent absolument pas à s'ouvrir à ce que peut être la souffrance de l'autre et sa réaction profonde. Entre un enfant qui a été super gâté affectivement et un enfant qui a été rejeté dès le début, non désiré, il y a un abîme. Je ne vois pas comment ils pourraient se comprendre l'un l'autre, si ce n'est par la lumière de l'Esprit-Saint, en réalité. Parce que c'est toute la manière de voir l'amour, de voir la vie qui est différente, conditionnée psychologiquement. Et donc, je pense surtout que la difficulté, en un premier temps, avant de trouver le chemin de la guérison effective des blessures, c'est de trouver le chemin de l'acceptation de l'autre dans ses réactions. Déjà, de comprendre qu'on ne le comprend pas. Parce que ce qui est dangereux pour la vie de couple, c'est le moment où on va tellement peu supporter ce qu'est l'autre dans ses réactions qu'on va vouloir le changer. Et ça peut être mortel pour la vie commune. Parce que là, ça va laisser place à l'esprit de domination. Dans ce vouloir changer l'autre parce qu'on ne comprend pas et dans cette incompréhension on ne supporte pas, on risque de se blesser l'un l'autre d'une manière beaucoup plus profonde que simplement ne le font les réactions psychiques premières.
On risque d'autant plus de se blesser parce qu'on va demander souvent inconsciemment et même consciemment. On va demander à l'autre de prendre en charge ce qui est de l'ordre de nos frustrations, de nos attentes, et on va lui demander de réparer les blessures de notre enfance. Et ce n'est pas le rôle de notre compagnon ou de notre compagne de faire cela. Et puisque ça ne va pas avoir lieu, on va se retrouver en attente, on va se retrouver frustré. Et du coup, on va porter un regard plutôt négatif sur l'autre, puisqu'il ne nous comprend pas, puisqu'il ne répond pas à notre attente. Et là, il faut être très vigilant, parce qu'on peut rentrer dans une sorte de revendication de part et d'autre. On peut avoir l'impression de ne plus se comprendre, voire de ne plus s'aimer pendant un temps. Et c'est un moment où il faut être très vigilant dans la relation de couple.
Alors par rapport à ce que tu disais tout de suite, nous dans nos éducations respectives, moi j'ai été dans un milieu où l'éducation était très sévère et beaucoup de non-dits, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas dire. Si ton pull te gratte, tu dis qu'il ne gratte pas. Le pull il a coûté cher, donc ça ne gratte pas. Au lieu de demander de faire un effort pour supporter. Donc moi, j'ai toute mon enfance, il ne fallait pas élever le ton, il n'y avait pas le droit de dire les choses, il fallait tout trouver bien. Et mon cher époux, chez lui, ce n'était pas du tout comme ça, on exprime beaucoup chez lui, et on est plus dans la vérité. Et moi, au début, je ne supportais pas. Je lui disais, mais tu élèves le ton, tu n'es jamais content. Enfin, je rouspétais en lui disant, en le mettant en position de l'accusé. Et il m'a fallu des années pour progressivement réaliser que c'est moi qui avais tort, en fait. Que c'est lui qui avait raison de dire ce qui n'allait pas. Moi, je pensais qu'il fallait se taire et que c'était vertueux de ne rien dire et de supporter. Mais ça enferme complètement. Donc voilà, et c'était vraiment le conditionnement familial. Hein. Et maintenant, ça me saute aux yeux. Il y a encore 3 jours, j'ai un de mes frères qui a eu ce comportement-là devant moi. Faut pas dire, quoi. Tout va très bien, madame la marquise. Et ça m'a sauté aux yeux que j'avais fait du chemin. Je me suis dit, tiens, quand même, j'ai fait du chemin. Donc voilà, tu veux compléter ?
Oui, à la maison, on n'avait pas de pull qui grattait. Donc ça allait mieux. Alors c'est vrai que tout au début de notre mariage, moi j'ai eu un peu de mal à comprendre que, parce que moi je m'entendais bien avec mes parents, ça avait été plutôt facile, enfin bon voilà. Et moi la difficulté que j'ai eue, c'est quelque part de prendre de la distance et de comprendre qu'Anne-Claire, elle était plutôt dans une situation de réaction. Parce que avant que je comprenne que c'était fort en elle, c'était quelque chose qui était vraiment très très profondément ancré. Et donc il y avait toujours une espèce de décalage. Et ça prend beaucoup de temps de comprendre ça. sans être tout de suite dans, je sais pas comment dire, pas dans une espèce de jugement, mais de pas comprendre quoi. Alors on comprend pas et on pourrait rentrer, et je suis certainement rentré dans des colères d'ailleurs, et on en a parlé, mais alors moi je le disais, et je me fichais en règle en disant mais je comprends pas, etc. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux donner comme témoignage en fait.
Donc en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en progressant, eh bien, on s'est plus disputé en progressant que. Et moi, j'ai eu l'impression en progressant de voir de plus en plus mes failles, mes difficultés. J'ai trouvé que c'était une grâce de découvrir. Maintenant, je trouve que c'est une grâce de découvrir toutes les erreurs que je faisais et que je ne voyais pas avant. Donc en fait, les grâces, j'ai eu l'impression que les grâces que je recevais me faisaient tomber de plus en plus bas, réaliser de plus en plus, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je voyais de plus en plus toutes mes erreurs que je ne voyais pas avant. Donc c'est difficile, la vie avec Dieu, ce travail de remettre devant Dieu sans arrêt nos difficultés, nos querelles, en disant « Seigneur, mais montre-moi, je veux comprendre, puisqu'on n'arrive pas à se comprendre, il faut que tu m'expliques ». Eh bien, pour moi, ça a été de descendre de mon piédestal, quoi, de me rendre compte progressivement que je rentrais dans une plus grande pauvreté. Quoi.
Oui, et puis en même temps, c'est très mêlé, parce qu'il y a des fois où effectivement, il y a quelque chose qui nous touche, qui est quelque chose qu'on a à corriger, et puis il y a des fois où ça peut être aussi des réactions qui sont justes. Enfin, si on se met en colère quelquefois, ça peut être juste de se mettre en colère, ça peut être injuste de se mettre en colère, ça peut être juste de se mettre en colère. Donc c'est très mêlé et c'est pas toujours facile de faire la part des choses. Donc c'est cette prise de recul constante qui peut-être aider à trouver un chemin.
Est-ce que vous dites rejoint ce que disait Josiane, c'est-à-dire la répétition instruit, mais à condition d'être dans une dynamique de conversion et d'être porté par une espérance et de rester à l'écoute intérieurement. En fait, ce que nous voudrions vous montrer aujourd'hui, c'est que ces difficultés de frottement de caractère, c'est de deux personnalités psychologiques blessées et blessantes. Comme disait Albert Thomas, deux pécheurs qui se rencontrent, ça fait des étincelles. Ces difficultés, c'est pas tant les difficultés elles-mêmes qui sont inévitables, que l'esprit dans lequel on les vit qui est décisif. C'est-à-dire il y a un esprit de sagesse, il y a une sagesse, il y a une manière de voir cette réalité psychique dans laquelle on est tous liés, qui est une réalité psychique blessée à la base. Il y a une sagesse qui fait qu'on arrive à faire de tout cela un chemin, et qu'on arrive progressivement à surmonter les choses au lieu de buter sur elles et d'en arriver finalement même quelquefois à des violences. Parce qu'on ne supporte plus. Et donc c'est là que le Christ peut nous rejoindre d'abord. Pensez que pendant des siècles, les gens ont mené des vies de couple, et souvent beaucoup plus fidèles que celles que l'on mène aujourd'hui, sans avoir de psychologue à leur côté, sans avoir même conscience de ces questions de blessures. En vivant, par contre, leur vie avec une sagesse qui venait de l'adoration de Dieu, du sens de Dieu, et qui a permis à des générations de chrétiens de vivre le mariage, non pas simplement sous un mode de tension morale, il faut, c'est mon devoir de chrétien, mais en se laissant conduire par Dieu, à travers ces difficultés de la vie de couple, se laissant conduire par Dieu sur le chemin d'un amour de plus en plus divin, de plus en plus à l'image de celui du Christ. Alors, comment Jésus peut-il nous guider et comment peut-on avancer sur le chemin de l'adoration sur ce terrain d'une vie commune qui est difficile en raison des blessures. La première chose dont il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de chemin tracé, donc on ne va pas vous donner des techniques. C'est un chemin que le Christ trace lui-même dans nos cœurs et dans nos vies. Mais par contre, on peut mettre en évidence un certain nombre de principes, des grandes lignes, quant à la manière dont nous pouvons coopérer à l'œuvre de la grâce. Ici, je voudrais simplement donner deux axes complémentaires, deux manières complémentaires de vivre notre vie en adorateur de Dieu, de grandir dans l'adoration. Le premier, c'est d'une manière évidente la prière. Une prière qui rejoigne la vie. Et le deuxième, c'est l'esprit de soumission à la volonté divine dans la vie concrète. Nous allons donc commencer par essayer de voir comment nous pouvons vivre la prière en esprit et en vérité, mais d'une manière qui nous rejoigne dans notre humanité réelle. Prier, le fond de la prière, c'est l'adoration en réalité, vous en êtes bien conscient, mais la difficulté que nous éprouvons tous, c'est de passer d'un vouloir prier, d'une prière, je dirais, volontaire, d'un exercice, à une prière du cœur. Rappelez-vous les paroles de Jésus, hein, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Difficulté dans la prière, c'est la distraction. La distraction, elle est liée à quoi ? Ben, elle est liée essentiellement à notre vie psychique. Et notre vie psychique est elle-même pleine de toutes nos blessures. Je me souviens ici dans l'église d'un garçon qui était d'une extrême violence, qui était régulièrement en hôpital psychiatrique, vraiment un grand blessé de la vie. Et on disait le chapelet à l'église, en même temps il était pieux. Il avait des élans même de religiosité, mais je me souviens qu'une fois, je le voyais régulièrement sortir son portefeuille pendant le chapelet. Il disait ses prières, en même temps il sortait son portefeuille, il l'ouvrait et puis regardait quelque chose. Je pensais qu'il devait avoir une petite icône portative. Non, c'était la photo de sa dernière bien-aimée. Son cœur était ailleurs. Mais il faisait quand même son exercice de piété. Enfin là, la distraction, elle était pour le moins assez forte. Et qu'est-ce que Jésus nous propose comme chemin quand nous nous retrouvons comme ça, entre une vie de prière qu'on aimerait vivre, mais une vie du cœur qui part d'un autre côté, parce que voilà, on est dans la colère ou on est dans la... On est dans toutes sortes de désirs qui nous envahissent. Écoutez le catéchisme. La difficulté habituelle de notre prière est la distraction. Elle peut porter sur les mots, bon, mais elle peut porter plus profondément sur celui que nous prions. Partir à la chasse des distractions serait tomber dans leur piège, vous avez bien entendu, alors qu'il suffit de revenir à notre cœur. Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Autrement dit, elle nous révèle ces mouvements de notre vie psychique qui fait que nous sommes repris par toutes sortes de désirs, de convoitises. La distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Qu'est-ce que Jésus nous propose ? Il nous propose de croire jusqu'au bout qu'il n'est pas venu appeler les justes, les purs, ceux qui n'ont pas de problème, mais qu'il est venu appeler les malades, les pécheurs. Et que le chemin qui s'offre à nous dans nos difficultés à prier, c'est un chemin d'humilité dans la prise de conscience de tout ce qui fait que notre cœur, de fait, n'est pas entièrement tourné vers Dieu. Autrement dit, dans notre vie concrète, n'essayons pas de faire comme si nous aimons Dieu de tout notre cœur, en cherchant à oublier tout le reste, en refoulant ce que nous vivons, mais profitons plutôt de nos distractions, de notre incapacité à prier, de notre non-envie de prier, pour nous remettre devant Dieu dans une attitude qui touche son cœur, qui est celle de l'humilité, de celui qui offre un cœur malade à la grâce de Dieu pour qu'elle le purifie. Alors, en réalité, sous cet angle, il est toujours possible de prier. Parce qu'il est toujours possible de se remettre devant Dieu dans l'état dans lequel on est. Et au lieu de se dire « j'arrive pas à prier », de dire « mon Dieu, je n'arrive pas à prier », ça change tout. Si je dis simplement « je ne peux pas prier, je ne suis pas en état », je me regarde moi-même. Si je dis « mon Dieu, je n'ai pas envie de te prier », je ne peux pas, dans l'état où je suis, te prier, mais je t'offre mon cœur, ta prière, elle est déjà là. Ce qui change le tout, c'est l'humilité avec laquelle j'accepte d'être à nu devant Dieu. Le catéchisme pose la question, quels sont les moments favorables pour la prière ? Réponse, catéchisme abrégé, tous les moments de la vie sont favorables à la prière. Faut pas dire, moi j'ai une femme, 5 enfants et un boulot hyper prenant, je ne peux pas prier. Comme me disait une nouvelle convertie, moi j'ai pas le temps de prier, alors je prie tout le temps. Mais oui, l'adoration telle que Jésus nous l'enseigne, une adoration pour les pauvres pécheurs, qui commence par la prise de conscience qu'on ne sait pas adorer Dieu. Qu'on est incapable de lui offrir un cœur tout entier tourné vers lui, ne serait-ce que à cause de toutes ces blessures qui sont en nous, qui fait que, par exemple, ben oui, une des choses qui nous... Moi, personnellement, qui me reprend souvent, c'est la colère, tout ça, on rumine des choses qu'on n'accepte pas et tout ça, et ça fait un blocage. Tant qu'on ne l'a pas reconnu et offert. À ce moment-là, la difficulté psychique, même dans la vie d'un couple, les difficultés relationnelles qu'on a, deviennent la matière même à partir de laquelle on rebondit vers Dieu. En suivant le chemin de l'humilité, qui est un peu le secret de tout. Et donc, aucun de nous n'a le droit de sortir de cette salle en se disant « moi, j'ai pas le temps de prendre un temps d'adoration, et donc je ne serai jamais... un homme capable d'aimer l'autre en Dieu, parce que ça c'est Jésus, il se glisse partout et il nous rejoint partout. Seule chose dont il est vraiment besoin, c'est qu'on revienne à cette attitude de vérité humble devant lui pour nous laisser rejoindre réellement par lui, puisque c'est lui qui nous rend adorateurs.
Moi, mes distractions en ce moment, c'est l'argent. Alors, je me suis dit, il y a un problème quand même. L'autre jour, j'arrivais pas à prier, je suis allée à l'église en me disant, comme ça, je suis dans l'église, je suis obligée de prier. Et j'y vais, et je me suis aperçue au bout de 20 minutes que j'avais calculé ce que tout l'argent que j'avais sur mes comptes, parce qu'on doit acheter un appartement, et que j'étais là. Au bout d'un quart d'heure, je me dis, je connais par cœur, ça y est, tout l'état de notre portefeuille pour savoir si oui ou non on va pouvoir se reloger. Et du coup, j'étais pas très fière de moi, je me suis dit, oh là là. Grave. Et en fait, je me suis aperçue, donc j'ai retourné et j'ai essayé d'écouter les bons conseils de Louis. Et je me suis dit, bon, ben, faut que je prie et que je remette ça au Seigneur. Tant pis si la bourse se casse la figure. Et je me suis aperçue dans les jours qui suivaient que j'avais vraiment un attachement, qu'il fallait corriger mon attachement à l'argent en voyant plusieurs trucs où je me suis dit, tiens, j'ai des émotions par rapport à ça. Et finalement ça a été... enfin, ce que dit Louis, c'est super, parce que je me dis maintenant, tous les problèmes d'argent qu'on peut avoir, ça va être l'occasion de se tourner vers Dieu au lieu de se désoler. Bon, et avec la crise, là, on a de quoi faire, là.
Ben oui, et donc, j'ai un problème avec mon conjoint, pas moi, hein. Vous... J'ai un problème avec mon conjoint. Je ne vais pas rentrer dans la chapelle en disant, bon voilà, tout ça c'est pas important, c'est Dieu qui est important, donc j'oublie. Non, je vais rentrer dans la chapelle avec ce problème. J'ai du ressentiment, j'ai de la frustration, je pars de cette vie là c'est à ce moment là que l'adoration peut commencer à mordre sur la vie réelle. La prière peut commencer à rentrer. Vous voyez, mais sinon, c'est toujours le même problème, deux vies parallèles. Et en fait, devant Dieu, on n'est pas dans la vérité de notre humanité. Et donc, comment pourrait-il nous rejoindre et nous purifier effectivement, puisqu'on ne lui offre rien de ce qui fait réellement notre vie, notamment notre vie affective, puisque cette vie-là, on se la garde comme ça. On ne veut pas la voir, souvent parce qu'on ne veut pas voir sa misère, évidemment, mais on ne laisse pas Dieu la voir non plus. Alors que, évidemment, on ne peut rien lui cacher. Une personne qui travaillait avec moi à l'Hôtel Dieu, qui passait des blessures profondes dans sa vie, grande blessure d'abandon, qui passait des heures devant le Saint-Sacrement, elle me disait qu'elle priait poitrine ouverte. Poitrine ouverte, et qu'elle sentait que Jésus venait et la consolait. Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, c'est à découvrir la prière poitrine ouverte. C'est ce qui donc permet au catéchisme de dire qu'on peut toujours entrer en oraison, l'oraison c'est la prière du cœur, indépendamment des conditions de santé, de travail ou d'affectivité. Donc, tirer profit des difficultés de la vie commune pour se remettre devant Dieu dans la prière, et par là même, en même temps, lui remettre ses difficultés réellement. Vous voyez, ça peut être déjà une première manière de ne pas rester, donc de ne pas rester enfermé dans une frustration qui nous pousserait à vouloir changer les choses, mais dans la prière, nous apprenons à déposer les choses. Et nous pouvons avancer déjà sur un chemin d'acceptation progressive des choses que nous allons voir. Mais avant de parler de l'acceptation des choses, de la soumission à Dieu dans la vie réelle, je voudrais souligner que l'adoration eucharistique, c'est le moyen le plus puissant d'entrer dans l'adoration. Dans quel sens ? Au sens d'abord où Jésus est là présent, comme le premier adorateur du Père. où Jésus est présent là dans son mouvement d'offrande et de remise totale de lui-même au Père. Or, c'est précisément ça que nous n'arrivons pas à faire, parce que nous sommes continuellement tentés de nous replier sur nous-mêmes et de nous cacher à Dieu. Et donc, quand nous sommes face à Jésus hostie, face à Jésus exposé, il n'est pas simplement exposé à nous, mais il est exposé à son Père, et il est tout tourné vers le Père, eh bien, nous nous laissons entraîner par lui dans ce mouvement d'adoration du Père en esprit en vérité. Je ne nie pas le fait que nous adorons aussi Jésus qui est vrai Dieu, mais j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas adorer Jésus sans en même temps rentrer dans sa relation d'amour au Père, puisque Jésus, il est pure relation au Père. Il est pure ouverture au Père. Et donc, plus particulièrement devant Jésus hostie, je suis appelé à être poitrine ouverte, à nu dans mon incapacité à aimer Dieu de tout mon cœur et dans mon incapacité à le prier en esprit et en vérité. Alors, l'adoration eucharistique, ce n'est pas un genre de sport spirituel réservé pour une petite élite. C'est bien au contraire le moyen qui est donné pour que tout homme puisse rentrer dans l'adoration, la seule qui soit vraiment agréable à Dieu, c'est-à-dire celle que Jésus a vécue pour nous, dans son humanité, pour que nous puissions la vivre en lui.
C'est un long chemin, ça, de se tourner vers le Père, ça peut être un long chemin pour... Pour moi, ça l'a été en tout cas très long. Pourtant, la première fois que j'ai fait l'expérience de l'adoration eucharistique, et ça fait 25 ans, là, c'est la première chose que j'ai reçue dans l'adoration, c'est une phrase du Père. Tout ce qui est à moi est à toi. C'était une phrase du Père à une époque où je ne pouvais pas, absolument pas, imaginer le Père du Ciel. Et je me dis, 25 ans après, c'est un long chemin, mais 25 ans après, je me dis, vraiment, ça y est, je peux me mettre dans les bras du Père. Non, alors je me dis qu'il y a eu quand même du chemin, parce qu'à l'époque, le Père, moi j'avais une vision du Père un peu... j'avais la trouille du Père, Donc en fait, je trouve que c'est un long chemin et qui est... vraiment un chemin dans l'adoration qui est vraiment très chouette.
Il y en a d'autres qui veulent témoigner que c'est chouette ? Bon. Alors, ce premier exercice qu'est la prière, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est hors de notre portée, parce que c'est un exercice qui est tout entier à vivre dans, en se laissant conduire par Jésus et face à lui. Il ne faut surtout pas de tension dans la prière. De vouloir prier, c'est déjà de trop. Si je suis là en disant « il faut que je prie, je me tends », alors qu'en réalité, commençons par dire « paraître en vérité, j'ai pas envie de prier aujourd'hui ». Ah, ça libère. Faisons pas de la prière notre affaire, mais faisons de la prière une action qui est d'abord celle du Christ en nous. Pas venu pour ceux qui savent prier, mais pour ceux qui ne savent pas prier. Et cette vie de prière, vous voyez, qui déjà, comprise ainsi, nous rejoint dans notre humanité réelle, elle est indissociable de la manière dont nous vivons l'action, dont nous vivons notre relation aux événements, la manière de vivre concrètement. Écoutez le catéchisme, on prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Si l'on ne veut pas habituellement agir selon l'Esprit du Christ, on ne peut pas non plus habituellement prier en son nom. Au fond, ça nous montre qu'il y a un fond commun à l'action et à l'exercice de la prière. Ce fond commun, en réalité, c'est l'adoration. Parce que adorer, c'est pas simplement prier Dieu, mais adorer, c'est, comme dit le catéchisme, se prosterner devant Dieu, reconnaître ça. Reconnaître qu'il est Dieu pour nous, pas seulement dans notre cœur, mais qu'il est Dieu dans notre vie concrète, dans notre histoire, dans les événements de notre vie. Et ça, ça veut dire entrer sur le chemin de l'acceptation et de l'abandon. Entrer sur le chemin d'un fiat, d'un oui, d'une soumission intérieure à la volonté divine, à sa sainte providence, qui doit se vivre, évidemment, dans les événements concrets de ma vie. On pourrait dire qu'il s'agit de s'ajuster à Dieu. C'est la vie même de l'homme, dit le cardinal Ratzinger. C'est la vie même de l'homme vivant, l'homme juste qui constitue l'adoration de Dieu, le véritable culte rendu à Dieu. Et rappelez-vous ce que dit saint Paul, offrez vos corps en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre, offrez pas seulement votre cœur, mais votre corps. Le corps, c'est l'action, c'est la vie concrète. Alors, comment vivre cette attitude d'obéissance filiale, de soumission à notre Créateur et Sauveur, dans le concret de la vie? La première manière d'accepter de dépendre de Dieu, de se soumettre à Dieu, c'est de se soumettre à la vérité. S'ajuster à Dieu, c'est aussi s'ajuster à la vérité. Une vérité qui informe notre conscience et qui fait que progressivement on se laisse mener dans notre vie par cet amour de la vérité en vivant l'obéissance à la loi morale, non pas comme une recherche de perfection morale, non pas pour une question de fidélité à des principes, mais comme une manière d'adorer Dieu. Et de lui offrir ce sacrifice, ce culte spirituel qu'est l'obéissance à ses commandements.
Dans ce chemin d'obéissance, il y a quelque chose pour nous qui a été un chemin d'amour qui nous a permis de faire grandir notre amour. C'est ce chemin d'obéissance à l'Église dans ce qui concerne la régulation naturelle des naissances, où en fait on a accepté de se laisser enseigner par ce que nous disait l'Église, d'accepter d'ouvrir notre cœur à ce que proposait l'Église en matière de régulation des naissances. Et dans ce chemin d'obéissance, en fait, on a bien vu que ça nous permettait bien de rentrer dans une soumission, j'allais dire dans une soumission amoureuse, dans une soumission filiale, et que petit à petit, ça nous permettait de rentrer dans cette dimension d'abandon et de confiance totale, de remise totale au Père, d'accepter en fait de nous reconnaître créatures devant notre Créateur. Et en ayant formé en fait beaucoup de couples sur toutes ces questions de la régulation naturelle des naissances, on s'est rendu compte que pour beaucoup, c'était vraiment un chemin pour rentrer dans cet abandon, dans cette confiance totale en Dieu. Et peut-être que quelquefois c'est difficile, c'est un chemin sur lequel parfois on chute, mais en fait accepter de repartir, de revenir toujours dans sur ce chemin, eh bien ça nous permet de rentrer dans ce chemin d'adoration et de permettre au Seigneur de s'incarner pleinement dans le concret de nos vies.
Notre notre obéissance à la vérité, elle aura toujours un caractère d'abandon parce qu'on se laisse guider par une vérité sans voir où elle nous conduit. Il y a toujours comme un saut dans le vide. C'est très différent de vivre selon la vérité, de vivre selon les calculs. On vit dans un monde qui prône une morale utilitariste. C'est-à-dire, je décide de ce qui est bon et de ce qui est bien en fonction du calcul prévisible des conséquences de l'acte. Tandis que, quand je me situe face à la loi divine, dans cet esprit d'adoration, c'est Dieu qui parle, je me soumets à sa parole, je ne suis pas dans le calcul humain des conséquences, surtout que le calcul humain de ses conséquences sera toujours contaminé par mon égocentrisme et mon aveuglement aussi sur les réelles conséquences de l'acte. Mais je suis dans une attitude finalement de remise de moi-même à Dieu à travers la remise de moi-même à la vérité par laquelle je me laisse guider. C'est pour ça que soumission à la vérité et soumission à Dieu dans l'abandon, en fait, ça se rejoint en profondeur. Ce qu'il faut arriver à dépasser, c'est une soumission à la vérité, entre guillemets, qui soit une recherche de perfection morale où on s'accroche à des principes comme ça, mais sans voir Dieu derrière. Et on voit bien qu'une morale séparée de l'adoration de Dieu, ça tient un certain nombre de temps, mais ça tient pas longtemps dans une société. La morale, elle est fondée en définitive sur l'adoration de Dieu. Sinon, elle se laisse reprendre par la subjectivité humaine, c'est-à-dire chacun se fait sa morale à sa mesure. Soumission à la vérité, soumission en définitive à la voix divine qui résonne à travers ma conscience, mais soumission aussi aux événements, soumission au réel, soumission aux choses. Dieu me parle à travers sa parole, à travers ses commandements, mais Dieu me parle aussi à travers la réalité des événements de ma vie. Il demande autant de me soumettre à sa parole, à ses commandements, que de me soumettre aux événements de ma vie. Se soumettre aux événements dans ma vie, à ce qui m'arrive, tout ce qui t'arrive, accepte-le, dit le Siracide. Se soumettre, ça ne veut pas dire se laisser aller à une résignation passive, mais ça veut dire regarder Dieu, regarder celui qui se sert de tout, regarder celui qui fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime, regarder celui qui, en définitive, tient toute chose dans sa main et c'est toujours, comme vous connaissez l'expression, c'est un proverbe portugais, hein, toujours tracer des lignes droites avec des courbes, de telle manière à pouvoir, dans notre vie réelle, de pouvoir vivre cette adoration de Dieu, voyez, dans ma manière même de réagir aux choses, et notamment de réagir à mon conjoint. Autrement dit, voyez, dans cet esprit de soumission aux choses, il y a un chemin d'acceptation de l'autre dans la foi en un Dieu créateur et sauveur qui a tout assumé et qui, en définitive, fera toujours tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Et précisément, en adorant Dieu, c'est-à-dire en acceptant dans la foi, dans la confiance, dans l'abandon de moi-même, en acceptant ce qui arrive, ce qui est la réalité présente, eh bien, je laisse davantage encore l'amour divin entrer dans ma vie et je laisse davantage encore Dieu de fait tourner le mal en bien. Je bute pas sur l'obstacle, je m'en sers pour m'ouvrir davantage à Dieu encore, dans la foi, dans la confiance, et à travers cette foi et cette confiance, Dieu va pouvoir pénétrer de fait, de manière plus forte encore, dans ma vie. Il fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment, pas de ceux qui le refusent. C'est-à-dire aussi, ça dépend de moi. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Je suis conscient que c'est précisément par mon acceptation et mon abandon que je peux, que les situations peuvent se retourner en profondeur. Je ne bute pas, je rebondis. grâce à cet esprit d'adoration qui est en définitive basé sur la foi en la providence divine.
Ça me fait penser à. J'ai une de mes filles qui a un enfant polyhandicapé et qui a écrit un livre sur le sujet. Et puis, on s'occupe à la Trinité d'un groupe de divorcés. Et il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit oh, j'ai lu le bouquin de Sophie, j'ai compris pourquoi j'avais divorcé. Alors moi, j'étais sidérée parce que je me dis dans le livre, il ne parle que de handicap. Et je lui dis, t'as un enfant handicapé. Et il me dit, mais non, mais j'ai compris en lisant ce livre que je n'acceptais pas les limites de mon épouse. Et en voyant comment, et ni les miennes, je n'acceptais ni mes limites, ni les limites de mon épouse. Et j'ai compris que en lisant ce livre, que avec le handicap, il arrive un moment où on est obligé d'accepter. On ne peut pas rêver que l'enfant guérisse quand le handicap est profond. Et nous, on a un peu cette expérience-là aussi avec une de nos filles qui a un petit handicap. C'est un combat permanent de ne pas rêver d'autre chose. J'ai tout le temps la tentation de prier pour qu'elle guérisse. Et je me dis, mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Même si je peux souhaiter qu'elle guérisse, c'est un peu utopique, mais bon. Je me rends bien compte que l'acceptation de ses limites et de l'accepter de l'aimer comme ça, de sans vouloir la changer, me fait énormément avancer, même par rapport à mon conjoint. Donc voilà, c'est cette acceptation des limites de l'autre.
Et moi, je voudrais rebondir sur la dernière phrase de Louis qui disait c'est vraiment un chemin que de grandir dans la foi, dans la providence. Je dis ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui reste difficile parce que j'ai été formé et puis j'ai un tempérament à prendre les choses en main et qu'au fond, j'ai beaucoup de mal à admettre que vraiment le Seigneur fait. Et ça pourrait presque, je dirais, me sembler mièvre à moi. Ça pourrait... C'est presque une connotation comme ça. Et en même temps, je me rends bien compte toutes ces dernières années que quand on lâche, en fait, les choses deviennent paisibles et les choses se font et y a un vrai acte de foi et que le Seigneur répond effectivement. Et voilà, je voudrais le dire fortement parce que vraiment, je le vis comme ça.
Donc, vous l'avez compris. Nous sommes partis de la considération que le problème n'était pas tant des difficultés liées aux blessures réciproques, mais de l'esprit dans lequel on vit ces difficultés. Et une chose dont l'adoration nous libère, peut nous libérer radicalement, c'est de vouloir changer l'autre. J'ai envie de dire de vouloir désespérément changer l'autre, précisément parce qu'on ne met pas son espérance en Dieu. Donc à partir du moment où on rentre dans ce chemin d'acceptation, en fait, on laisse le Christ sauveur passer. Et c'est à partir de là que pourra se faire un chemin de guérison effective des blessures et de transformation effective de la relation. Mais, comme dit le gardien Ratzinger, au commencement est l'adoration. La base de tout. De l'édifice de notre vie spirituelle et humaine. À partir de l'adoration, tout se réordonne, se réajuste. Je préciserai que, à partir du moment où on a cette conviction intime, plus que cette conviction intime, cette confiance totale, que Dieu sait ce qu'il permet et qu'il ne perdrait pas ses souffrances de la vie commune s'il ne pouvait pas en tirer un bien plus grand, eh bien, on sait que ce bien plus grand, en définitive, c'est notre vie d'amour réel, c'est la qualité, la profondeur de notre amour, c'est la purification de notre cœur, comme dit saint Augustin, Dieu veut à tout prix purifier notre cœur. Eh bien, à partir de ce moment-là, on peut commencer à profiter de ces difficultés de la vie commune, non pas pour vouloir changer l'autre, mais pour avancer sur le chemin de notre propre changement. Nous savons bien que c'est en changeant soi-même qu'on peut aider l'autre à changer. voyez, la situation se renverse. Je suis ramené au chemin que j'ai à vivre à la suite du Christ, à partir de cet acte d'abandon, de remise de moi-même, de ma vie, entre ses mains. Nous parlerons la prochaine fois de ce chemin de guérison effective, mais vous voyez, j'insiste sur la base, l'adoration. Une adoration qui a donc deux modes principaux, le recours à la prière continuelle, prier sans cesse, en toutes circonstances, recourir à la prière, je vous ai montré comment, hein, et l'autre mode, c'est l'acceptation de ce qui est. Et dans la prière elle-même, les deux se nourrissent mutuellement. On sent bien que quand on est arrivé à mieux accepter les choses, on prie mieux. Et que le fait aussi de prier nous aide à accepter. La Vierge aurait dit dans un lieu d'apparition que je ne citerai pas, que chacune de vos journées soit prière et abandon. Et c'est le premier chemin donc, qui s'ouvre pour une transformation effective de notre vie d'amour. Puissions sortir, comme dit Benoît XVI, de la prison de notre propre moi. Et donc, même si nos blessures psychiques ne sont pas pour autant guéries, il y a un travail de fond, qui est un travail de brisure de notre orgueil, de notre autosuffisance, de nos vieux enfermements sur nous-mêmes, comme dirait encore une fois Benoît XVI, hein, qui va à la racine du mal. Et donc qui purifie le cœur lui-même d'abord. L'adoration, elle touche, elle rejoint la blessure première du péché originel, tentation originelle. Et encore une fois, elle prépare un chemin de guérison psychologique. Elle pose les bases pour une vraie transformation concrète de notre humanité. Elle nous rend disponibles au Christ, à son action et à l'action de l'Esprit Saint. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste sera donné par surcroît.